Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Ma petite maman chérie. Mon tout petit frère adoré. Mon petit papa aimé. Je vais mourir.
Le 22 octobre 1941, 48 otages ont été rassemblés. C'est le dernier jour de leur vie.
RTL.
Sur les planches de la baraque où ils sont retenus avant de partir à la mort. Ils vont t'inscrire.
Okay. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a 75 ans, un enfant tombait pour la patrie. Guy Moquet, 17 ans et demi, fusillé par les nazis. On vous raconte son histoire avec le magazine Notre Temps. C'est en partenariat avec RTL. Bonsoir Florence Monteil.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir au micro de la curiosité. Nous sommes le 22 octobre 1941, il est 16h et 27 militants communistes marchent vers la mort. Ils chantent la Marseillaise. Où vont-ils exactement?
Bah, ils vont au lieu dit la carrière de la Sablière, qui est sur la commune de Châteaubriant, où il y a aussi le camp de Choiseul, où ils sont internés. Et en fait, il y a eu deux jours plus tôt, un officier allemand a été assassiné par des résistants à Nantes. Et l'Allemagne avait annoncé une politique de représailles sous forme d'exécution d'otages. Donc ils vont le mettre effectivement en pratique. Et ce sont les premiers otages exécutés en France. Il y en a 48 qui vont être exécutés, dont 27 ce jour-là sur la commune de Châteaubriant.
Et parmi ces 27, Guy Moquet, un adolescent qui sait qu'il va entrer dans l'histoire. Pourquoi ?
Parce qu'il va dire... Il sait qu'il est jeune, hein, il a une culture politique. Hein, donc il est très intelligent. Donc il va effectivement dire à l'abbé qui accompagne les condamnés « Je laisserai mon souvenir dans l'histoire car je suis le plus jeune des condamnés ».
Et il a raison.
Il a raison.
Il a raison. Pour qui va-t-il très vite devenir un héros ? Pour les communistes d'abord ?
Pour les communistes, pour toute la résistance à laquelle participent les communistes et qui vraiment en 1941 commence à bien se structurer. Et plein de maquis vont prendre le nom de Guy Moquet. Ses dernières paroles, ce qui va être un petit peu, ce qui va circuler, il avait écrit aussi une phrase sur les murs de sa baraque au camp de Choiseul, sur du bois, et ça a été récupéré in extremis, qui a des complicités à l'intérieur, où il dit aussi, vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir, et cette phrase va devenir comme une sorte de motif, de qui va être dit, répété, approprié, et qui va galvaniser la résistance, parce que c'est tellement excessif, c'est tellement choquant, et puis ce sont les communistes aussi qui sont attaqués, puisque les 27 de Châteaubriand sont tous communistes et c'est délibéré.
Il sera décoré à titre posthume.
À titre posthume, avoir effectivement la Croix de Guerre, la Légion d'honneur. À partir des fin 44, c'est le général de Gaulle qui signe les décrets d'ailleurs, qui avait connu son père, puisque le père Moquet, Prosper Moquet, était un élu communiste. Enfin, c'est une famille.
Quand on parle de Guy Moquet, on parle de sa lettre, d'une dernière lettre qu'il a écrite à sa maman, à ses parents. Est-ce que c'est vraiment sa dernière lettre ?
Alors, il y a eu deux lettres. Ce qu'on sait, en fait, que depuis le début des années 2000, parce que la lettre la plus connue, c'est la lettre, effectivement, à sa famille, qui est très poignante, très vraiment d'un fils aimant, et courageux, très conscient de son destin. Mais il va écrire un petit mot, on va dire vraiment à la hâte, à une jeune fille qui est dans le camp de Choiseul avec lui depuis quelques mois et dont il est amoureux. Et c'est un mot d'amour. La dernière lettre qu'il écrit, en réalité, c'est un petit mot d'amour. Vous voulez que je vous lise le petit mot d'amour ? Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Et ce qu'elle avait promis, c'était un baiser, juste un baiser. Ce sont deux jeunes gens, ils ont 17 ans tous les deux. Et ils se sont connus à la barrière entre le camp des femmes et des hommes. Ils sont tombés très très vite amoureux. Et il lui a offert une petite bague qui avait été fabriquée dans une pièce de monnaie, une photo de lui. Ils se sont fait des serments, elle lui a promis un baiser. Et ce petit mot, c'est la dernière chose qu'il va écrire. Sa dernière pensée, c'est une pensée de jeune homme amoureux.
Elle vit toujours, cette femme ?
Elle est toujours en vie. Elle a l'âge qu'aurait Guy Moquet aujourd'hui, c'est-à-dire 92 ans. Et donc le 22 octobre, il y a trois jours, elle était à la carrière de la Sablière, Elle est présidente de l'amicale de Châteaubriand et elle était, elle participait à la cérémonie commémorative. Elle participe de la mémoire. Elle a écrit un très très joli livre en 2008. Guy Moquet, que je ne me trompe pas sur le titre, mon amour de jeunesse. Guy Moquet, mon amour de jeunesse, édition L'Archipel, et qui est un merveilleux témoignage sur Guy Moquet, mais aussi sur cette jeunesse et cette jeunesse communiste qui s'est engagée dans la résistance très tôt, de façon un peu maladroite, un peu voilà, mais avec une espèce de foi de patriote. Et cet idéal de fraternité qui était le communisme.
Alors, Florence Montel, il y a cette dernière lettre que vous nous expliquez à cette jeune femme à l'époque dont il est amoureux. Et puis, il y a la lettre que tout le monde connaît, rédigée juste avant son exécution, qu'il envoie à ses parents. « Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. » On ne va pas la lire en entier, malheureusement, parce qu'elle est vraiment magnifique, cette lettre. Dans quel contexte il l'écrit? À quel moment?
Alors, la journée du... Ce qui se passe, c'est que le 20, donc, il y a l'assassinat de cet officier allemand, Karl Hotz. Et très vite, les rumeurs tournent qu'il va y avoir des otages assassinés. Mais ils ne vont savoir qu'ils ne sont concernés, les 27 du camp de Choiseul, que le 22, en fait. Bon, que le 22, c'est à peine 48 heures après. Hein. Et en fait, ça bruise de rumeurs. À midi, Guy Moquet ne sait absolument pas ce qui va lui arriver. Il voit Odette et il lui dit vivement ce soir, je suis inquiet. Vivement ce soir, c'est la dernière chose qu'il va lui dire. Et puis, en fait, en début d'après-midi, ils apprennent qu'ils vont être exécutés. Ils sont rassemblés dans la baraque 10, baraque en bois du camp de Choiseul. Et là, donc, ils se préparent à l'exécution. Le camp est complètement fermé, volet clos. Odette, le clan à l'époque, Niles, femme mariée aujourd'hui, raconte qu'elles entendent les bruits, elles entendent des camions, elles entendent le chant de la Marseillaise et donc les futurs exécutés qui montent dans ces camions. Et à 16h10, ils sont tous morts.
Voilà. Qui était Guy Moquet? Quelle a été sa courte vie? Pourquoi a-t-il été fusillé? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant, les curieux. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il aurait eu 92 ans cette année s'il n'avait pas été fusillé par les nazis un 22 octobre, le 22 octobre 1941. On vous raconte la courte, la bouleversante vie de Guy Moquet avec le magazine Notre Temps. C'est en partenariat avec RTL et c'est Florence Monteil qui nous raconte ce destin. Guy Moquet naît le 26 avril 1924. C'est quoi son environnement familial? D'ailleurs, il naît où?
Alors, il va naître dans le... Il est parisien.
Il est parisien.
C'est vraiment un gamin de Paris.
Oui.
Il va naître dans le 18e arrondissement, mais très, très vite son quartier. C'est le 17e, c'est le quartier des Épinettes. Et qui va sillonner en vélo. Il est connu pour ça. C'est un gamin des rues qui connaît tout le monde, qui interpelle tout le monde. On est dans un Paris très populaire. Mmh. Son papa, Prosper Moquet, a grandi dans une ferme. Vraiment milieu très modeste. Il est devenu cheminot. Il s'est syndiqué très jeune. Il avait fait la guerre de 14-18, c'est important de le dire, parce qu'il a fait cette guerre, il a été honoré pour sa guerre, et il avait une marraine de guerre, une certaine Juliette, qui va épouser en 1919, donc elle est la maman de Guy Moquet, qui n'aura qu'un frère, un petit frère Serge. Et donc cette famille, c'est une famille profondément habitée par l'idéal communiste, tel qu'il était vécu vraiment à la base, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité. Il va grandir dans une imprégnation très très forte. Il faut comprendre à quel point ces actes et le courage dont il va faire preuve face à l'exécution, c'est issu de cette imprégnation-là.
Donc son père, Prosper Moquet, s'encarte au Parti communiste français. Il devient député du 17e arrondissement de Paris. Et un jour, il est arrêté en octobre 1939. Pour quelle raison?
Alors, hop, on remonte le temps. 36, euphorie générale. Front populaire, premier congé payé. Et il est élu à ce moment-là en 36. Député communiste. Donc là, le rêve se réalise. Et puis, ça va se gâter un petit peu, parce que donc la puissance hitlérienne monte. Et puis, en 1939, Hitler et Staline signent un accord de
pacte de non-agression,
le pacte germano-soviétique. Mmh. Et Le PCF, le Parti communiste français, va reconnaître, valider les caciques du parti, donc ça suit derrière. Du coup, le président du Conseil, Édouard Daladier, va décréter hors la loi le Parti communiste. Bon, petite parenthèse, il avait signé un an avant un accord du même type avec les accords de Munich, de non-agression. Mais enfin là, c'est plus à l'ordre du jour. Et donc le Parti communiste est décrété hors la loi. Les élus déchus de leur mandat. Et donc, interdiction de se regrouper. Or, Prosper Mocquet, il va tenter de reformer un groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, reconstitution de ligue dissoute, arrêté. Donc, en octobre. Octobre, c'est le mois tragique pour la famille Mocquet. Ça se passe tout le temps en octobre, les catastrophes. Et donc, en octobre 39, le père Mocquet, Prosper Mocquet, est arrêté. Il ne reverra jamais son fils, puisque un an après, c'est au tour de Guy d'être...
Il prend la relève, en quelque sorte, Guy Mocquet.
Complètement. Ce que je disais, il est imprégné de cette culture qui l'associe complètement à l'amour qu'il a pour sa famille. Enfin, c'est une éthique de vraiment de la
fraternité. Mais ça veut dire quoi, concrètement, dans ses actes? Il devient quoi? Militant,
alors,
communiste?
C'est un lycéen. Alors, il était déjà aux Jeunesses communistes.
Oui.
Impossible de distribuer l'UMA à 8 ans dans la rue, quoi. Hein,
d'accord.
Donc c'est, ça va de soi. C'est consubstantiel à cette famille. Et à cette époque, à ces milieux. Mais là, effectivement, quand le père est arrêté, il est l'aîné des deux fils. Il prend le relais. Son père, c'est son héros. Donc, il se sent investi d'un rôle et il va effectivement prendre la relève, donc devenir militant plus activiste, entrer dans une forme de difficile d'employer le mot résistance, mais en tout cas d'actes de résistance, des distributions de tracts, il va écrire des slogans.
Et c'est un littéraire aussi.
Alors,
militant poète, c'est ce que vous dites dans votre article de Notre Temps, Florence Montaigne.
C'est un brillant élève du lycée Carnot. Effectivement, il va arrêter ses études parce qu'il veut se consacrer à ses actions militantes. Et un mois après l'arrestation de son père, il écrit à Édouard Herriot, qui est le président de la Chambre des députés, donc il connaissait son papa, et il lui écrit une lettre pour lui demander la libération de son père. Et cette lettre, je ne sais pas si on a le temps d'en lire un bout, c'est des Alexandrins.
Allez-y.
Donc, on voit aussi toute la passion de ce jeune homme. Et donc, c'est des Alexandrins. Je suis l'un des enfants d'un de ces députés qui sont tous en prison aujourd'hui, enfermés. Je suis jeune Français et j'aime ma patrie. J'ai un cœur de Français qui demande et supplie qu'on lui rende son père, lui qui a combattu pour notre belle France avec tant de vertu.
Cette lettre va servir à rien.
Rien du tout.
Florence Monteil.
Rien du tout, sinon nous faire connaître ce Guy Mocquet, qui est quand même exalté aussi. Hein. Oui, le père reste, il va être déporté d'ailleurs à la Maison Carrée, au bagne de la Maison Carrée à Alger. Il n'en sortira qu'en 43 et après tout va se passer en l'absence du père.
Guy Mocquet, 17 ans et demi, militant et poète, et comme la vie est injuste parfois, ce sont les mots qui le perdront. On vous racontera ça après les infos. C'est ça qui vous a passionné dans ce portrait aussi, Florence Monteil, c'est que Guy Mocquet, c'était un tout jeune, très lettré, très poète, qui en fait militait avec ses mots.
Avec ses mots, tout à fait.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Vive le parti!
Maman, ce que je demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine.
RTL.
Courage. Votre Guy qui vous aime.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le destin fulgurant de Guy Mocquet, fusillé par les nazis un 22 octobre 1941. On vous raconte l'histoire de ce militant poète avec la journaliste, non moins poète, Florence Monteil, du magazine Notre Temps, qui consacre un très bel article dans son numéro de novembre. C'est en partenariat avec RTL. On va raconter l'arrestation de Guy Mocquet. On est le 13 octobre 1940. Quels sont ses projets? Il part où, ce petit bonhomme, avec son vélo? Parce qu'il est toujours avec son vélo. Vous nous avez dit qu'il était très sportif.
Là, il est gare de l'Est. Il attend son copain René parce qu'ils ont, ils vont partir retrouver des copines pour aller à Bondy. C'est un dimanche, il fait beau.
On va flirter.
Il fait beau. Et là, il est ailleurs, quoi. Il pense au baiser qu'il va voler. Et il voit pas du tout qu'il est filé depuis chez lui par trois policiers. Et c'est terrible parce qu'il voit son copain arriver et là les policiers leur tombent dessus, ils sont immédiatement incarcérés à Fresnes, ils vont être quand même passés un peu à la question. Le copain va dire des choses, Guy ne passe pas aux aveux, mais ce qui va lui...
Mais qu'est-ce qu'on... Pardon, je vous interromps, Florence. Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce
cherche
qu'on
à... Qu'est-ce qu'on veut leur faire avouer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué quelques tracts, c'est ça?
Ben, ça suffit.
Ça suffisait.
Ça suffisait, parce que c'était des tracts communistes, un parti interdit, c'est de l'anti-France. Voilà, donc c'est passible d'emprisonnement. Et puis il cherchait à les réseaux, il cherchait à remonter les réseaux. Et donc
et au fond de la poche, Florence Monteil,
et donc il partait,
un poème.
Il partait et lui, comme il écrit des poèmes, il avait écrit des poèmes, il les avait reproduits pour les distribuer pendant cette partie de campagne. Et c'est un poème justement parce qu'il y a encore eu des arrestations sur le fait que la France de Vichy, c'est les traîtres de notre pays, les agents du capitalisme.
Nous les chasserons hors d'ici
pour instaurer le socialisme, pour vous faire sortir de la prison, pour tuer le capitalisme.
Donc voilà, donc ça c'est pas très
c'est sûr que dans la France
digeste.
De Vichy ça passe
pas. C'est pas digeste. Mais il va quand même tenir bon. Donc ils vont quand même finalement signer l'ordre d'acquittement. Quelques jours après, on est en octobre 40. Et puis sa mère vient le chercher et au moment où il va partir, paf, contre-ordre. Parce qu'il y avait des décrets de possibilité de rétention administrative pour complément d'enquête. Et là, ils vont le garder 3 mois. Et au bout de 3 mois, début 41, ils vont le déclarer coupable.
Donc il est coupable. Il y a un procès ?
Il y a
un simulacre de procès ?
Non, c'est pas des procès. C'est des enquêtes dites administratives où on essaie de démontrer en recoupant des bouts de preuves. Et donc ils vont estimer que il y a suffisamment de preuves pour considérer que c'est un activiste, un militant, un dangereux activiste qui, effectivement, par ses lancers de tracts dans les cinémas ou les choses qu'il peint sur les murs. Il faut quand même dire une chose, c'est que pourquoi les policiers lui tombent dessus, Gare de l'Est ? Il a été dénoncé. Donc il est surveillé depuis quelques jours. Il y a une lettre anonyme qu'il a dénoncée. On est dans cette France-là, terrible, et où ce jeune homme se fait prendre par cette mécanique, cette machine infernale, où effectivement un militantisme finalement assez de base va l'amener à la prison, au camp de Choiseul, à être un otage, enfin, c'est une espèce d'enchaînement.
Pourquoi il va passer de prison en prison?
Et
en
alors,
fait
pendant 7 mois, en fait, ça, il va passer de Fresnes, La Santé, Clairvaux dans l'Aude, et il va finalement arriver en mai 41, donc au camp de Choiseul, qui se trouve sur la commune de Châteaubriant, où il va passer les 5 mois qui lui restent à vivre.
Est-ce qu'on sait comment ça se passe, le quotidien de Guy Moquet dans ce camp de Choiseul?
C'est très dur, hein, parce que c'est des baraques en bois, il fait froid, ils n'ont pas bien à manger, etc. Mais, comme ce sont massivement des communistes, ils mettent en fait en pratique un peu la doctrine de l'éducation collective, de la solidarité. Donc quand il y a un colis qui arrive, il est partagé par tout le monde. Ceux qui savent des choses l'enseignent aux autres. Donc ils organisent des écoles, ils font des compétitions sportives. Et lui, il est...
Est-ce que c'est un leader malgré son jeune âge? Est-ce qu'il est charismatique?
Il est charismatique. Guy Moquet. Il est très charismatique et ça va être raconté dans des lettres qu'on a pu lire après, y compris malheureusement par des figures du syndicalisme et de la politique communiste comme Jean-Pierre Timbaud dit Tintin dans sa lettre. Il évoque Tintin et Michel. C'est Jean-Pierre Timbaud et Charles Michel qui sont les syndicalistes. Charles Michel, député du 15e, communiste, et qui ont l'âge de son père, qui connaissent son père, et qui vont d'abord le prendre sous leur aile parce que c'est le fils Moquet. Et puis après, ils vont raconter dans leur lettre qu'il est formidable, cultivé, brillant, qu'il joue de l'harmonica le soir pour mettre de l'ambiance, qu'il est toujours prêt à assumer ses tâches. Et donc la vie du camp s'organise dur, mais dans cette fraternité et dans ses lettres, finalement, Moquet, il parle de quelque chose, d'une expérience dure, mais dans ce fameux idéal de fraternité.
Comment se passe, il faut raconter ça, comment se passe l'exécution?
C'est terrible. C'est terrible parce que ils sont donc 27 à Châteaubriant. Il y en a 48 en tout. Il y en a 16 à Nantes le même jour qui sont exécutés.
Pas les oublier.
5 à Paris, donc 48 en tout otages exécutés. Et en fait, ils viennent les chercher et ils sont dans cette carrière. Et ils sont 27 à devoir être exécutés. Et il n'y a que 9 poteaux. Donc ils vont faire 3 séries d'exécution. Et donc la deuxième série, la troisième série assistent à l'exécution des camarades. Et Guy Moquet, pour son malheur, est dans le deuxième groupe. Donc il va assister à l'exécution des 9 premiers. Ils vont tous se mettre d'accord pour refuser le bandeau sur les yeux, refuser d'avoir les mains liées. Et ils vont tous aller au poteau en chantant la Marseillaise. C'est intéressant, ils chantent la Marseillaise. Ils chantent pas l'international. On a entendu dans l'extrait là, vous avez passé, ils chantent l'international. Ils chantaient bien sûr aussi l'international. Mais quand ils ne chantaient qu'un chant, c'était la Marseillaise. On n'a pas toujours cette représentation de cet attachement
pour
à la
patrie.
France et du patriotisme des communistes qu'on associe un peu à ce côté internationaliste. Et voilà, donc il va être exécuté à 16h. Et les 9 derniers seront exécutés à 16h10, toutes les 10 minutes.
Merci beaucoup Florence Monteil. Votre article émouvant, très beau, est à lire dans le magazine Notre Temps. Et puis vous conseillez aussi des livres pour prolonger ce portrait de Guy Môquet et garder cette mémoire vive. Ce qui est important, c'est notre rôle à nous.
Merci Florence, à bientôt.
Vous écoutez RTL.